Donc, dans cette profusion finalement de changements, on voit bien que ça concerne très directement nos organismes institutionnels et organismes avec ce double sens d'organisme vivant et complexe, on vient de le signaler. Il y a un mot qui revient constamment maintenant, il est dit à plusieurs niveaux, c'est le mot d'accompagnement. Alors, quand on a évoqué cette réunion avec le recteur, les chefs d'établissement, les
Les
inspections,
inspecteurs.
etc., on dit, mais on va vous accompagner, c'est la mission de la formation, c'est la mission de
C'est la mission que
l'inspection.
fait un directeur de thèse.
C'est ce que devrait faire un directeur de thèse avec ses étudiants. C'est ce qu'on demande d'ailleurs nouvellement maintenant de faire à tout niveau de l'éducation et donc nouvellement au lycée pour des professeurs que d'accompagner ses élèves, même de façon personnalisée. Donc on voit bien que c'est un mot, il n'est pas magique ce mot parce que s'il était magique, il serait très attractif. Et manifestement, il est très paradoxal. Tout le monde commence à l'employer, et l'emploie du versement d'ailleurs, à tout niveau. On voit bien que c'est un recteur l'emploie pour ses établissements, comme un professeur va l'employer pour ses élèves. Et en même temps, il peut être répulsif parce que il semble provoquer un certain nombre de craintes, de résistance, voire même de refus. On a des collègues qui disent je ne comprends pas ou je ne suis pas formé pour ça. Donc je voudrais
Des
qu'on.
élèves qui disent ça ou
Non,
même des
des
professeurs,
professeurs
c'est ça, oui.
qui affirment ben, moi j'enseigne, mais je n'accompagne pas, ou alors je ne sais pas faire. Et donc je voudrais qu'on revienne sur ce mot-là, qu'on puisse essayer de l'enrichir et de le rendre plus attractif, plus compréhensible en tout cas pour nos collègues.
La notion d'accompagnement, je crois que c'est une notion, encore une fois, qui peut être familière dans le milieu universitaire, puisque c'est ce que fait, par exemple, un directeur de thèse. Il n'est pas celui qui commande à son thésard de faire géométriquement un certain nombre de tâches successives. Il est celui qui rencontre périodiquement ce thésard pour voir où il en est, ce qu'il a fait pour coopérer à un certain nombre d'indications qui peuvent être utiles, en lui indiquant peut-être un ouvrage qu'il aurait intérêt à consulter ou un concept qu'il aurait à développer ou toute autre référence, bien entendu, plus ou moins importante et plus ou moins heuristique. Mais il est dans une situation donc dans laquelle il effectue ce qui est propre à cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on marche ensemble, qu'on procède ensemble, et qu'il n'y a pas donc une façon de faire qui implique une subordination complète de celui qui est supposé être accompagné et qui ne le serait pas à
Tout à
ce
fait.
moment-là s'il y avait cette subordination.
Et ce point-là est déjà un décalage important, c'est-à-dire qu'une progression ensemble, une progression de concert, n'indique pas que celui qui accompagne en sait plus ou soit d'une expertise folle par rapport à l'étudiant. Et donc il y a une démarche de recherche ensemble
Démarche
avec
de recherche.
peut-être des éléments de différence, mais déjà le positionnement est différent. On n'est pas sur un maître, un élève quand même à ce niveau-là.
Même en responsable d'un département de recherche, comme j'ai vécu moi-même à l'INRP, l'accompagnement aussi existait, en ce sens que je demandais à mes différents collègues faisant leur recherche de venir me parler de là où ils en étaient, de venir en parler aux autres. C'était donc un accompagnement qui était fait. On voyait où ils en étaient dans leur progression. Et on sait très bien que dans ces progressions, à un moment donné, il y a un certain nombre de blocages. Et c'est là où l'accompagnement va être facilitateur, avoir un aspect libérateur. Pour justement aider à passer ce passage affectivement en même temps qu'intellectuellement. Là encore, l'accompagnement suppose une réalité psychique accordée à d'autres psychismes dans lesquels il y a cette forme de prise en considération de tout autre individu, cet enrichissement de soi par l'autre, sur lequel effectivement beaucoup de nos grands philosophes les plus récents, je pense à Ricoeur, je pense aussi à Lévinas, et je pourrais penser aussi à bien d'autres à cet égard, ont montré que, effectivement, l'autre est fait pour nous enrichir, de même que nous sommes faits pour enrichir l'autre. Enfin, il y a cet échange qui est typiquement le phénomène humain. Effectivement, je ne sache pas qu'il y ait beaucoup de ces échanges dans le monde animal. Peut-être qu'il y en a que j'ignore et qu'on en découvrira. Mais en tout cas, il est clair que c'est cette manière de se prendre en considération réciproque qui, effectivement, a une toute autre allure dans la réalité humaine et qui fait que, quand même, quand on regarde ce que les animaux ont fait, quels qu'ils soient, même quand ils font de belles termitières ou quand on voit ce qu'ont fait l'humanité, on peut tout de même si on n'est pas très passionné pour la réalité de notre humanité, concevoir qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu important et de significatif, justement, dans cette notion. On s'accompagne, on est en progression ensemble, on progresse. Moi, je regarde ce qui s'est passé tout de même il y a 20 ou 30 000 ans, que les points les plus éloignés du globe terrestre de l'époque aient été atteints par des hommes.